Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 28 décembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Le nouveau cycle de pourparlers s'articule autour d'une levée vérifiable des sanctions contre l'Iran, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Le succès des négociations de Vienne dépend de la conclusion d'un accord sur la levée des sanctions, a souligné le principal négociateur iranien. L'Iran condamne fermement l'attentat terroriste au Burkina Faso. Les forces yéménites ont libéré la province Al-Jaouf. Et nous défendrons les intérêts du Mali et la coopération militaire se poursuit, a souligné la Russie. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le nouveau cycle de pourparlers de Vienne sur la relance du plan global d'action conjoint s'articule autour des moyens de donner à l'Iran l'assurance qu'il bénéficiera des avantages économiques de l'accord nucléaire de 2015 et de lever les sanctions contre Téhéran de manière vérifiable, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. S'adressant à des journalistes lundi à Téhéran, Hossein Amir Abdollahian a donné des détails sur le sujet qui va être discuté lors du nouveau cycle des pourparlers et du plan global d'action conjoint. Selon le chef de la diplomatie iranienne, les principaux sujets de ces pourparlers seront les assurances et la vérification. Le nouveau cycle de pourparlers a débuté à Vienne. Aujourd'hui, nous avons un document mutuellement acceptable sur la table des négociations que nous considérons comme le résultat des documents des premiers et 15 décembre, à la fois sur la question nucléaire et sur les sanctions, a expliqué Amir Abdollahian. Il a déclaré que le document de juin 2020 a été laissé de côté car un nouveau document conjoint a été convenu. À partir d'aujourd'hui, notre négociation commencera à tourner autour de ce document, comme a-t-il souligné. Le principal négociateur iranien pour les pourparlers de Vienne, Ali Barelikhani, a déclaré que la conclusion d'un accord qui implique la levée des sanctions anti-iraniennes est la clé du succès du 8e cycle des pourparlers en cours du plan global d'action conjoint à Vienne. S'adressant à des journalistes, Borrelli a déclaré que presque tous les pays participant à la réunion ont souligné la priorité de lever les sanctions illégales et oppressives contre l'Iran. L'Iran a condamné fermement l'attentat terroriste au Burkina Faso. Tout en condamnant fermement le récent attentat terroriste au Burkina Faso, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé lundi sa profonde tristesse face à la mort d'un certain nombre de citoyens de ce pays par des groupes terroristes. Suite à la tragique attaque terroriste au Burkina Faso, Saïd Khatibzadeh a sympathisé avec le gouvernement, le peuple et les survivants de cette attaque terroriste. Khatibzadeh a déclaré que le facteur le plus important dans la montée en puissance des groupes terroristes dans la région est l'intérêt de certains pays face à la propagation de l'insécurité et de l'instabilité. Au moins 22 personnes ont été tuées dans une attaque armée contre un convoi de commerçants entre les villes d'Ouigua et de Tito au Burkina Faso. La Syrie s'attache à son droit enraciné de reprendre tout le Golan occupé, selon le ministre syrien des Affaires étrangères. Faisal Miqdad, chef de la diplomatie syrienne, affirme que la Syrie avait réalisé de grands accomplissements dans la guerre contre le terrorisme, assurant que les réseaux terroristes se déploient toujours dans des parties de ce territoire et que la guerre contre le terrorisme se poursuivra jusqu'à leur éradication définitive. Dans une interview, Faisal Miqdad a indiqué que le réseau terroriste du Front Nusra se déploie toujours dans le nord-ouest de la Syrie par le biais d'un soutien turc et que le réseau terroriste Daesh se positionne dans le nord-est par le biais d'un soutien américain. Il a fait savoir que la Turquie occupe une partie des territoires syriens et impose la Turkistan et protège des groupes terroristes dans une violation des accords d'Astana, affirmant que la Syrie libérera ses territoires, que ce soit à Idlib ou dans les régions nord à la frontière syro-turque. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. La résistance yéménite, composée des forces de l'armée et des comités populaires Ansar Allah, mène une opération militaire à grande échelle l'aube du désert pour libérer la zone d'Al-Yatama de la province d'Al-Jaouf, ont annoncé les forces armées, soulignant que plus de 1200 km² ont été libérés. Ainsi, la province d'Al-Jaouf est devenue complètement libérée, à l'exception de certaines zones désertiques. Le porte-parole officiel des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, a déclaré dans un communiqué que l'opération visait la libération complète de la zone d'Al-Yatama et de ses environs. Une superficie totale estimée à plus de 1200 km² et la défaite des forces de l'ennemi et leurs partisans, des mercenaires, des traîtres et des agents. Il a confirmé que de lourdes pertes avaient été infligées aux forces ennemies et que de grandes quantités d'armes avaient été confisquées, indiquant que le gouvernorat de Jaouf serait complètement libéré à l'exception de quelques zone désertique. Nous défendrons les intérêts du Mali et la coopération militaire se poursuit, selon la Russie. Le directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères de Russie a déclaré que son pays défendra les intérêts du Mali aux Nations Unies et que la coopération militaire et logistique entre les deux pays se poursuivra à travers les canons officiels. Selon l'agence RIA, les pressions, les provocations et les menaces à l'endroit des autorités de la transition au Mali sont une nouvelle forme de colonisation, ajoutant que le Mali a le droit de coopérer avec tout partenaire de son choix dans sa lutte contre les groupes armés. Les déclarations du responsable russe interviennent après la réponse du gouvernement malien de transition à un communiqué de 15 pays partenaires occidentaux du pays dans sa lutte contre le terrorisme. Le diplomate malien Iraniens a critiqué la France pour avoir mis fin à l'opération Barkhane, ajoutant que le retrait de la France du Mali compliquera davantage la situation sécuritaire et renforcera les capacités des groupes terroristes. Le gouvernement malien de transition avait nié la présence dans le pays de combattants du groupe Wagner, considérant que les accusations contenues dans le communiqué sont erronées et sans fondement, demandant d'en donner les preuves. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé la mise en place de plusieurs mesures sécuritaires dans la ville de Beni, nord-est du pays et ses environs après l'attentat suicide survenu en pleine fête de Noël qui a fait au moins 8 morts et 20 blessés. Lors d'une conférence de presse, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, et de Constant Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, ont annoncé le durcissement du couvre-feu qui passe désormais de 20h à 19h dans la ville de Beni, précisant la constitution des unités chargées de protéger le territoire de Beni. D'après le porte-parole du gouvernement, le bilan provisoire faisait état de 8 morts, dont en fait de l'auteur de l'attaque et de 20 blessés dans cet attentat qui s'est survenu aux environs de 20h heure locale à l'entrée du bar très fréquenté dans le centre-ville de Beni. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique, plus précisément en provenance de la République démocratique du Congo, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La Syrie s'attache à son droit enraciné de reprendre de tout le Golan occupé, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que la Syrie avait réalisé de grands accomplissements dans la guerre contre le terrorisme, assurant que les réseaux terroristes se déploient toujours dans des parties de ces territoires et que la guerre contre le terrorisme se poursuivra jusqu'à leur éradication définitive. Dans une interview qu'il a accordée aux deux chaînes de Souraya et à la Ikhbariya, Miqdad a indiqué que le réseau terroriste du Front Nusra se déploie toujours dans le nord-ouest de la Syrie par le biais d'un soutien turc et que le réseau terroriste Daesh se positionne dans le nord-est par le biais d'un soutien américain. Il a fait savoir que la Turquie occupe une partie des territoires syriens et impose la Turquisistan et protège les groupes terroristes dans une violation des ententes d'Astana, affirmant que la Syrie libérera ses territoires, que ce soit à Idlib ou dans les régions nord, à la frontière syro-turque. Le ministre syrien des Affaires étrangères a fait noter que l'occupant américain et la milice de FTS qui le soutient continuent à voler les richesses syriennes dans la région Jazira, notamment le pétrole, le blé et le coton, et que ces richesses appartiennent au peuple syrien. Faisal Miqdad a souligné que la milice des FTS séquestre environ 60 000 personnes dans le camp d'Al-Hol par le biais d'un soutien américain et vole les aides qui leur sont octroyé. Le chef de la diplomatie syrienne a qualifié d'illégales les mesures économiques coercitives imposées par les États-Unis et les pays occidentaux au peuple syrien, indiquant qu'elles visent à réaliser les agendas de ces pays. Et Miqdad de poursuivre, lorsque les ennemis de la Syrie ont échoué à réaliser leurs objectifs par le biais du terrorisme et du meurtre, ils ont recouru à entraver le règlement politique car ils n'ont aucun intérêt dans la stabilisation de la situation dans le pays. Faisal Miqdad a souligné la régularisation de la situation de plus de 30 000 personnes dans les deux gouvernorats de Daraa et Deir ez-Zor et leur retour à la vie normale. Quant au comité de débat de la Constitution, le chef de la diplomatie syrienne a déclaré « La Syrie traite avec positivité avec le comité de combat de la Constitution et le problème n'est point avec l'émissaire de l'ONU ou avec l'ONU elle-même, mais avec ceux qui ont envoyé des dizaines de milliers de terroristes et ont dépensé des milliards de dollars pour détruire le pays. » Faisal Miqdad a en outre réaffirmé que la Syrie s'attache à son droit enraciné de reprendre tout le Golan occupé et que de ce droit est imprescriptible.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, beaucoup de pays de l'Afrique se rallient et coupent l'herbe sous le pied de la France, ce qui n'avait pas été intégré dans les calculs de cette dernière. Le torchon brûle en effet entre la France, le Mali, le Burkina Faso et pourquoi pas l'Algérie. Alors en Afrique, partout, les gens n'hésitent pas, même les plus jeunes, n'hésitent pas à affronter des convois françaises. Est-ce vraiment cette fois la fin de France-Afrique? Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, Geoffrey.
La fin de la France-Afrique est en train de sonner. Les échecs de Paris s'accumulent. Les menaces et le chantage n'ont plus l'effet escompté. Beaucoup de pays d'Afrique se rallient et coupent l'herbe sous le pied de l'empire néocolonialiste. Au Mali, cela a pris quelques années, mais le peuple malien continue de briser l'empire néocolonial dans son pays. Il est clair que les deux coups d'État cette année n'ont pas fait du bien au peuple malien. Paris a tenté à coups de pression, de chantage, de menaces, de bluffs, de sournoiseries, de divisions au sein du peuple malien, de terrorisme, de démembrement, de casser le Grand Mali. Cependant, le peuple malien a de nouveau été plus malin. Le fait que les peuples défendent leur souveraineté bec et ongle était visiblement un point que Paris n'avait certainement pas intégré dans ses calculs. En 8 ans d'occupation du Mali, le démembrement via l'accord dit d'Alger, ou plutôt l'accord de Paris, n'a pas pu se faire. Le Mali est resté le Mali. Malgré les nombreux plans que Paris a mis en place pour séparer le nord du reste du Mali avec des interdictions aux officiers maliens de se rendre dans certaines zones du nord et de même, la difficulté du peuple à se rendre dans cette partie du pays n'a pas du tout donné l'effet escompté. La dernière visite du ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, au Mali, a d'ailleurs porté un grand coup à la France-Afrique. Il a clairement déclaré que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, est également le tombeau du colonialisme et du racisme. De son côté, suite aux propos indécents et dénigrants du président français Emmanuel Macron concernant non seulement le Sahel mais surtout le Mali, le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur français en fonction à Bamako. Les propos du président français reflètent clairement sa vision et sa politique france-africaine. Contrairement à ce qu'il avait déclaré notamment lors de sa venue à Ouagadougou, où il prétendait vouloir mettre fin à la France-Afrique, s'avère être de nouveau un mensonge. Le président Macron devrait justement savoir que c'est grâce à la France que le terrorisme s'est propagé en Afrique, notamment avec l'attaque de la Libye. Comme le disait le défunt président tchadien Idriss Déby et l'ex-président nigérien Mamadou Issoufou avant l'attaque de la Libye, il n'y avait pas de terrorisme en Afrique. Tout comme avant l'arrivée des troupes d'occupation étrangères en Afrique, il n'y avait pas non plus de conflits interethniques ou interreligieux. L'Afrique est souveraine et le peuple africain défend sa souveraineté. Et Paris peut trouver autant d'alliés qu'il souhaite pour maintenir l'Afrique sous le couvercle du néocolonialisme. Ce couvercle lui explosera à la figure. Ce couvercle porte maintenant le nom de coup d'État contre la France-Afrique.
Vous regardez l'émission Le Débat, la France-Afrique, ou plutôt je devrais dire la fin de France-Afrique est au cœur du sujet du débat d'aujourd'hui. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe et à mon collègue Pierre Claver-Codeau, qui est un ami.
Un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour à M. Pierre Claver-Codeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau, qui est avec nous depuis l'Afrique. M. Codeau, bonjour. M. Codeau, est-ce que vous nous entendez? Si oui, bonjour. Malheureusement, nous avons un problème de liaison. Alors, je vais commencer par M. Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, j'aimerais que vous commenciez ce débat en disant quelques mots à propos de cet adolescent qui n'a pas hésité d'affronter la convoi française, donc les mains nues. Ça nous rappelle un peu les Palestiniens. Que pensez-vous?
C'est un héros africain et il montre que la jeunesse africaine, conscientisée par le néo-panafricanisme, n'a plus peur ni des impérialistes ni des Français. Mais il faut faire une remarque tout d'abord sur le Mali. Le Mali, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution qui est menée par des militaires patriotes. Le colonel Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui est de la lignée des Kadhafi et des Thomas Sankara. Il y a une complète adéquation, une complète alliance entre les militaires patriotes maliens et le peuple malien. C'est une révolution populaire. C'est cela que les Français n'ont pas compris.
Oui, Luc Michel, ce qui passe au Mali, on dirait que c'est sans la présence de la France. La France n'a pas un mot à dire à ce sujet. Ils n'ont vraiment rien à faire de la France dans cette révolution que vous évoquez.
Non, justement, la France, justement, n'a plus la main. Elle n'a plus la direction des opérations. Et les militaires maliens, ce sont des colonels pro-russes qui ont pris le pouvoir dans le but d'une alliance militaire avec la Russie. Il y a aujourd'hui un axe qui est Alger, Moscou, Bamako, qui a changé toute la donne géopolitique dans le pays et qui fait suite à l'axe Moscou-Bangui. Mais je tiens à vous faire tout d'abord une remarque. Il faut comprendre que la France est une puissance décadente, c'est une puissance secondaire, c'est une puissance géopolitiquement qui est une petite puissance. La France, elle est présente en Afrique parce qu'elle intervient sous un parapluie américain. Je dis souvent que la grande ombre de la marionnette française, elle dissimule la main de la marionnettiste américaine. Depuis Giscard d'Estaing, les Français, ils sont présents géopolitiquement en Afrique sous parapluie américain et parce qu'ils sont le gendarme de l'Afrique, et disait Donald Trump, le shérif de l'Afrique en Afrique. Mais la France aujourd'hui, elle n'a plus la confiance des États-Unis. Et les États-Unis ont un plan géopolitique qui est de remplacer directement les États-Unis, de remplacer directement la France en Afrique par l'OTAN, et notamment de remplacer la France par la Turquie, qui est la seconde armée de l'Afrique. Ce qui explique la chute de l'impérialisme français et le crépuscule de la France-Afrique, c'est justement cette perte de confiance des États-Unis dans la France et justement le fait que la France doit être remplacée militairement directement par l'OTAN et par la Turquie.
Oui. Alors, Luc Michel, vous avez évoqué la présence des Américains en Afrique. On entend très peu de cette présence, mais l'affaiblissement de la France en Afrique, c'est dû justement aux États-Unis?
Oui, tout à fait. Les États-Unis sont en train de redéployer l'OTAN dans une zone qui va du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Auparavant, l'OTAN ne concernait que le Maroc et la Libye. Et ils sont en train de déployer notamment leur allié de l'OTAN, notamment la Bundeswehr de Merkel un peu partout, au détriment des Français. Il faut comprendre ce qui se passe. Il y a quelques semaines, le jour du sommet de Montpellier à Paris, est sortie une biographie de la France-Afrique qui s'appelle « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Ça résume tout le problème. Lorsque Macron est devenu président, il est arrivé avec un plan pour faire survivre la France-Afrique. C'était ce qu'on appelle la France-Afrique 2.0. Il s'agissait de prendre le contrôle de la CEDEAO à partir d'une alliance avec le Maroc. La France a donc fait rentrer les Marocains dans la CEDEAO et il s'agissait de faire de la monnaie unique de la CEDEAO qu'on appelle le projet ECO, de faire le nouveau franc, le nouveau visage du franc CFA avec l'aide des Marocains et de la Côte d'Ivoire qui sont les deux principaux alliés de la France dans la région. En 2017 donc, les Américains de Donald Trump appuyaient ce projet. Mais en 2019, il y a eu le Brexit. Qu'est-ce que c'est le Brexit? C'est un projet qui intervient dans la guerre économique entre les Anglo-Saxons et les Français pour fracturer l'Union européenne et faire partir la Grande-Bretagne. À partir de ce moment-là, les États-Unis de Donald Trump ont appuyé Londres et ont empêché les Marocains, les Français et la Côte d'Ivoire de s'emparer de la CEDEAO. Avec l'aide de l'allié des Anglo-Saxons qui est le Nigeria, les Américains ont empêché le projet français. Ils se sont opposés à elle et depuis, les Américains s'opposent au projet de la France, de cette France-Afrique 2.0. C'est l'échec français. Ça explique aujourd'hui que cette France-Afrique 2.0, elle est en échec et qu'elle va continuer à échouer. C'est la mort et le crépuscule de la France-Afrique.
Oui.
Les tentatives de la France, notamment le sommet de Montpellier, mais partout, la France-Afrique, elle échoue parce que justement, elle n'a pas l'appui. Elle n'a plus l'appui ni des Français, ni des anciens alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, donc, les Américains
Absolument.
Veulent prendre la main partout sur l'ancienne France-Afrique. Et un deuxième, évidemment, partenaire des Africains est arrivé, c'est la Russie et le Bloc de l'Est, les Chinois et surtout votre pays, l'Iran. C'est ce qui explique, évidemment, aujourd'hui, l'échec définitif, à mon sens, de la France-Afrique. Il faut comprendre quelque chose, c'est que, évidemment, la France fait de la résistance. Elle n'accepte pas son déclassement géopolitique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un déclassement géopolitique qui intervient en Afrique, mais qui intervient également en Europe. En Europe, l'Union européenne s'est construite sur un duo franco-allemand, mais depuis la réunification de l'Allemagne de l'Ouest avec l'Allemagne de l'Est, c'est l'Allemagne qui est hégémonique en Europe. L'euro, par exemple, c'est un euro-marque. La banque de l'euro, elle est à Francfort, en Allemagne. Et donc, la France est déclassée aussi bien en Europe qu'en Afrique. Mais la France fait de la résistance. Ça explique ce qui se passe en Centrafrique. Ça explique ce qui se passe au Mali. Ça explique ce qui se passe au Burkina Faso. Ça explique ce qui se passe, évidemment, au Niger. Mais malheureusement, cette tentative de résister de la France, elle est menée en elle se bat, va commencer par les populations africaines qui n'ont plus peur de la France-Afrique. L'arrivée des Russes, elle est apportée, et des Iraniens, elle apporte de l'oxygène géopolitique aux Africains qui ont aujourd'hui les moyens géopolitiques de résister. C'est ce qui explique toutes les gesticulations sur les soi-disant mercenaires russes, toutes ces gesticulations sur le groupe Wagner, etc. La France, elle est en échec. Qu'est-ce qu'il faut également retenir? C'est que ces tentatives de résister économique et géopolitique de la France, elles sont battues en but un peu partout par les Américains. par les Africains, mais aussi par les Russes et par les Iraniens. C'est la fin de la France-Afrique parce que géopolitiquement, la France n'a plus les moyens d'être une puissance qui dirige et qui agit comme puissance directrice en Afrique. C'est une puissance secondaire qui est en train d'échouer, que ce soit contre ses adversaires du bloc de l'Est, que ce soit contre ses anciens vassaux africains, que ce soit contre ses anciens alliés américains.
Absolument. Et Luc Michel, beaucoup d'Africains, les Burkina Faso, au Niger par exemple, et même le Mali, pensent que la présence française est signe du terrorisme. Au lieu de faire régner la sécurité dans ces pays-là, ils sont là, mais donc, ils créent la terreur dans la... Pensez-vous ?
Les responsables du terrorisme, ce ne sont pas la France, ce sont les Américains. En 2011, les Américains ont lancé une grande opération de remodelage géopolitique de l'Afrique qu'on a appelée le printemps arabe, qui a commencé avec la destruction de la Jamaïque de Kadhafi, qui était le pivot géopolitique de toute l'Afrique centrale. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé à partir de 2014 une deuxième opération américaine menée par Obama, Hillary Clinton et John Kerry, qu'on a appelée donc le printemps africain. Elle a été continuée par la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton et aujourd'hui par les politiques africaines et arabes de Kamala Harris et de Joe Biden. C'est dans ce contexte que le terrorisme a été implanté dans toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'avec l'aide des Turcs notamment, les Américains ont implanté et ont développé le djihadisme dans tout le monde arabe et africain. Les Français n'ont été que des porteurs de valises. Ils ont agi sous parapluie américain. En particulier, il y a eu deux séquelles, deux opérations géopolitiques qui sont des scénarios géopolitiques à la libyenne qui ont été développés en Centrafrique et au Mali par les États-Unis avec l'aide de la France. Ça a été l'arrivée d'une coalition terroriste d'ACMI au Mali et de la SELECA en Centrafrique. La SELECA, c'est une coalition islamiste que les Américains et les Français ont amené au pouvoir à Bamako. La SELECA, ça veut dire, en gros, là-bas, c'est Al-Qaïda, vous voyez mieux. Et au Mali, les Français et les Américains ont amené au pouvoir des terroristes, c'est l'Azawad malien, les Touaregs, alliés à ACMI, à Al-Qaïda, donc au Maghreb. Et c'est eux qui sont les responsables de cette explosion du djihadisme un peu partout, en Afrique centrale et dans la côte de l'Afrique.
Tout à fait.
Quand Kadhafi est détruit, il y a une seule grande organisation djihadiste, c'est ACMI. Elle est constituée de mafieux qui sont des trafiquants de cigarettes. Aujourd'hui, en 2021, il y a quatre grandes organisations djihadistes transnationales. Il y a les djihadistes d'ACMI qui sont présents dans tout le Maghreb. Il y a les gens d'Al-Qaïda, l'État islamique au Grand Sahara, les gens, pardon, excusez-moi, de Daesh.
Absolument.
Qui sont présents dans tout le Maghreb, notamment en Libye, etc. Il y a les gens de Boko Haram qui sont présents dans toute la région, en particulier sur la ligne du Lac Tchad. Il y a enfin les gens, les chebabs somaliens qui sont aujourd'hui présents dans toute la côte de l'Afrique jusqu'aux frontières du Sahel et qui sont présents non plus seulement en Somalie, mais qui sont présents donc au Sahel, qui sont présents au Kenya, qui sont présents
d'accord.
en Éthiopie, qui sont surtout présents au Mozambique. C'est cela la réalité du djihadisme. Les Français, c'est une puissance secondaire. Les responsables, évidemment, ce sont les Américains.
Les Américains, tout à fait. Est-ce que vous voulez bien conclure, M. Luc Michel, dans l'avenir, peut-être un avenir très très proche, nous serons témoins de la fin de France-Afrique, ou on l'est déjà peut-être. Vous avez parlé de crépuscule de la puissance entre France-Afrique. Est-ce que vous pouvez développer cette question, je vous prie?
Écoutez, donc le dernier livre sur la France-Afrique, c'est l'Empire qui ne voulait pas mourir. C'était le projet de Macron et de Le Drian. Mais aujourd'hui, la France-Afrique est en train de mourir. Nous assistons au crépuscule de la France-Afrique. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que le problème des Africains, c'est un problème global, c'est l'impérialisme du bloc américain occidental. Et comme je le dis, la détestation des Français, elle est légitime, elle doit être comprise, mais la grande ombre de la France-Afrique, elle ne doit pas dissimuler la main du marionnettiste américain. Les Français doivent être dégagés de l'Afrique, mais ensuite, ça doit être le cas de leur maître américain et de leurs complices, notamment les Turcs et les Allemands de Mme Merkel. Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que le terrorisme qui frappe l'Afrique, il est le responsable, ce sont les impérialistes américains. C'est cela qu'il faut constater. Il ne faut pas se focaliser sur les Français, il faut se focaliser sur le phénomène global de l'impérialisme occidental.
Luc Michel, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous dites que les Français sont remplacés par les États-Unis, peut-être, à l'avenir, en Afrique?
Les Français sont en train d'être remplacés par les Américains, et les Américains entendent remplacer comme domestiques en Afrique les Français par les Turcs. La Turquie, c'est le cheval de Troie des Américains. Ils ont repris le contrôle de la Libye en 2019 avec l'aide des terroristes syriens venus d'Ukraine pour le compte des Américains. Et maintenant, dans tous les pays où la Russie intervient, eh bien, les Turcs sont en train d'intervenir comme cheval de Troie. Qu'est-ce qui explique la chute de la France-Afrique? C'est que les Russes, ils mènent une guerre hybride avec l'aide de la Turquie contre les Occidentaux. Et cette guerre hybride, elle s'est attaquée en premier lieu au ventre mou de l'impérialisme français, de l'impérialisme, excusez-moi, occidental en Afrique. Ce ventre mou, c'est la France-Afrique. Les Russes se sont attaqués aux Français et les Iraniens s'attaquent aux Français parce qu'ils ont compris que le ventre mou de l'impérialisme occidental, c'était la France. La France-Afrique, donc, elle doit être dégagée de l'Afrique, mais ensuite, il faut s'attaquer à l'impérialisme américain et occidental.
Est-ce qu'il va le faire, M. Luc Michel?
Oui, oui, c'est en route, tout à fait. La guerre hybride menée par la Russie et l'Afrique, elle est en train de faire dégager les Français. Mais l'étape suivante, évidemment, ce sont les États-Unis et les Allemands. Actuellement, il y a une grande campagne américaine contre les Russes en Afrique. C'est la grande campagne contre Wagner, qui n'est pas une campagne française, mais une campagne américaine. Évidemment, il s'agit bien entendu de l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de faire dégager les Américains.
Luc Michel, géopoliticien, vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité.
Ici, le Moyen-Orient.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest.
L'Iran a riposté aux accusations britanniques selon lesquelles les récentes manœuvres militaires iraniennes, grand messager d'ICED, représentent une menace régionale internationale taclant que l'Iran ne demande la permission de personne pour son programme de défensif. Le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a organisé entre le lundi 20 décembre et le vendredi 24 décembre des exercices militaires au sud de l'Iran, au cours desquels ont été employés, entre autres, ces missiles sol-sol, ces missiles de croisière, ces vedettes, ces drones, ces hélicoptères et ces avions bombardiers. Dans un communiqué, le ministère britannique des Affaires étrangères a prétendu ces comportements constituent une menace régionale internationale invitant l'Iran à faire cesser ses activités dès immédiatement. Et le ministère iranien des Affaires étrangères dit réagir. L'Iran ne demande la permission de personne pour son programme défensif. L'Iran travaille en respect des lois internationales. Les déclarations britanniques sont une ingérence dans les affaires intérieures iraniennes, a-t-il souligné le ministère iranien des Affaires étrangères dans son communiqué. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Borrelli, a indiqué que les manœuvres de baptisé grand prophète d'Issed sont une riposte aux menaces israéliennes et ne sont qu'une petite partie des capacités balistiques iraniennes. Selon l'agence iranienne Tasnim, ces manœuvres ont simulé une attaque contre l'installation nucléaire d'Imona et des sites de militaires israéliens sensibles. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Iran à l'invitation du président iranien Ibrahim Raisi afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du plan de relance et des relations du Venezuela avec les pays arabes que nous entamons l'année prochaine, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la chaîne pan-arabe indépendante Al Mayadin. Je me rendrai à Téhéran très prochainement à l'invitation du président iranien afin que nous puissions nous rencontrer en personne et signer de nouveaux accords, a poursuivi Nicolas Maduro. Les deux présidents se sont récemment entretenus deux fois au téléphone pour discuter des détails concernant la mise en place de nouveaux accords de coopération, a expliqué M. Maduro sans spécifier la nature de ces accords. Le but de ma visite sera de permettre l'accélération du processus de coopération, a-t-il ajouté. Pendant l'entretien qui a également été diffusé à la télévision nationale vénézuélienne, Nicolas Maduro a plusieurs fois couvert d'éloges le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, déclarant l'admirer pour sa profonde sagesse et sa grande intelligence. Les bras armés de la résistance à Gaza réalisent des exercices militaires conjoints. Les bras armés des factions de la résistance dans la bande de Gaza ont lancé des manœuvres militaires conjointes, les deuxièmes de leur genre, pour améliorer les compétences des forces armées. La salle des opérations conjointes des groupes de la résistance palestinienne a fait état, c'était ce dimanche 26 décembre, du début d'un exercice conjoint baptisé Pilier Fort de dans la bande de Gaza. Au cours de l'exercice, diverses activités militaires ont été menées dans le but d'échanger des expériences entre les groupes de la résistance palestinienne et d'augmenter leur capacité militaire et leur vitesse de coordination ainsi que leur force opérationnelle. L'an dernier, la salle des opérations conjointes de la résistance palestinienne a mené l'exercice Al-Rukn al-Shadi 1, Pilier Fort 1, au cours duquel des groupes de la résistance ont tiré des missiles sur des cibles en mer. L'exercice intervient alors que les médias ont rapporté le 1er janvier que l'Égypte n'avait pas réussi à assurer la médiation entre la résistance palestinienne et le régime sioniste Tunis, ajoutant que cela pourrait conduire à des affrontements entre les deux parties. Les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du mouvement Hamas, ont organisé, c'était le 15 décembre, l'exercice militaire baptisé Bouclier de Quds, dans le but de renforcer leur niveau de préparation au combat et de simuler divers scénarios. Ansar Allah vise des sites sensibles à Gisant, promet de nouvelles opérations. Le mouvement yéménite Ansar Allah a annoncé avoir frappé des sites très importants et sensibles de l'ennemi saoudien à Gisant avec 3 missiles balistiques de haute précision et d'une technologie évoluée, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari, soulignant que les missiles ont atteint leur cible grâce à Dieu. Et d'ajouter, cette opération est menée dans le cadre de la légitime défense en riposte à l'agression et au blocus visant notre peuple, promettant le régime saoudien d'opérations douloureuses tant qu'il poursuit son agression et ses crimes. Et depuis près de 7 ans, le Yémen est en proie à une agression menée par la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite qui a fait plus de 233 000 martyrs et 80% de sa population d'environ 30 millions de personnes est devenue dépendante de subventions dans la pire crise humanitaire au monde selon les Nations Unies. La souveraineté est une ligne rouge. La coalition Al-Fatah refuse la présence d'aucun soldat US en Irak après 2021. La coalition irakienne Al-Fatah a annoncé de son refus d'admettre la présence des forces américaines non combattantes à des fins de formation ou de conseil dans le pays après la fin de cette année. Nous avons convenu, après tous les atermoiements, que la fin de cette année sera la date de la sortie de toutes les forces de combat américains du sol irakien, et c'est un objectif qui ne peut être soumis à des compromis, a affirmé le chef de la coalition, Adi Ameri. La souveraineté est une ligne rouge. Mon message est clair pour les forces américaines et le gouvernement irakien, a-t-il souligné encore, et d'exiger la mise en œuvre de ce qui a été convenu en toute transparence. Nous n'acceptons aucune manipulation, tromperie ou un changement de nom de mission. Et si les forces américaines veulent rester en Irak, elles doivent supporter une mauvaise décision. Nous n'acceptons pas la présence d'un seul soldat ni à la base d'Aïn al-Assad ni à Harir dans le Kurdistan sous prétexte de formation ou de consultation, a prévenu M. Ameri. Il a souligné que si le gouvernement irakien a besoin de formateurs et de conseillers, il doit rédiger un contrat qui explique leur localisation, leur nombre et leur mission. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Riche d'une histoire et d'une civilisation millénaire. Sa nature diversifiée et sa culture variée. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des routes. Visitons ensemble les provinces belles et historiques de l'Iran, entre autres Fars, Ispahan, Yazd, Khuzestan, Kurdistan, Semnan, Lorestan, Bushehr, Zanjan, Khorasan, Hormozgan, Téhéran, Hamedan et Azerbaïdjan. Suivez-nous toutes les semaines sur les ondes courtes de la Voix de la République islamique d'Iran.